Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, mon invité de ce soir est tombé dans le chant choral tout jeune et il n'en est jamais sorti. Ce chef de chœur mosellan a donné une nouvelle orientation au chant choral par des actions remarquées qui l'ont amené à réaliser des projets originaux, comme par exemple diriger 2000 choristes, ou bien faire se rencontrer les stars de la variété française et les choristes lorrains sur un même plateau de télévision à une heure de grande écoute, tout en n'hésitant pas à se mettre devant un grand orchestre pour diriger le Requiem de Mozart ou le Messie de Handel. Bonsoir Jackie Lox.
Bonsoir.
Alors toute votre vie tourne autour de la musique, certes, mais surtout autour du chant choral. Quelle vertu trouvez-vous à la pratique du chant choral et qu'est-ce que ça vous apporte à vous également?
La première chose, c'est de rencontrer des gens qui ont la même passion,
oui.
De chanter ensemble, parce qu'il y a une différence entre chanter seul et chanter ensemble. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et ça fait des rencontres inoubliables aussi, parce que beaucoup de touristes sont devenus des amis. On a l'impression de faire partie d'une même famille. Et puis, on chante avec les autres, ça veut dire qu'on écoute les autres, et mêler sa voix dans une polyphonie avec d'autres gens qui chantent autre chose, et que ça sonne bien ensemble, c'est magnifique. Moi, ça m'a toujours... C'était mon moteur depuis le début.
Oui, c'est ça. Donc, il y a une partie, j'allais dire humaine, qui se greffe à la pratique musicale.
Oui, et puis... j'adore harmoniser, donc créer, magnifier une œuvre, encore, si c'est possible, c'est-à-dire toujours en respectant l'original, évidemment, mais encore de lui donner des dimensions un peu différentes, parce qu'on a quand même une palette, j'écris souvent 5 ou 6 voix, donc on a quand même une palette assez large de pouvoir recréer le morceau avec des atmosphères un peu différentes. Et c'est toujours une découverte à chaque nouveau titre que je crée.
D'accord. Alors, je vous propose pour commencer d'écouter le Golden Gate Quartet et puis après, on en parle.
I'm going to lay down my burden,
well down by the riverside,
down by the riverside,
down by the riverside.
I'm going to lay down my burden,
well
down by the riverside. Steady war no more, no more,
and there ain't going
steady war no more.
Well, there ain't going
steady war no more.
Well, there ain't going
steady war no more.
Steady war no more.
Steady war no more.
Well, there ain't going
steady war no more.
Well, there ain't going
steady war no more.
I'm going to lay down my burden.
Well, down
by the riverside.
Down
by the riverside.
Well, down
by the riverside.
I'm going to lay down
my burden.
Well,
down by the riverside.
Steady.
Sword and shield,
down by the riverside,
down
by the riverside,
down
by the riverside.
I'm gonna lay down my sword and shield,
well
down
by the riverside.
We're steady war no more, no more.
Well, I ain't gonna
steady
think about war no more.
I ain't gonna think about my troubles and war. I'm gonna
steady
think about my fiddle and bow. I'm gonna play by the river shore. I ain't gonna think about troubles and war. I'm gonna
steady
shout for joy and I ain't gonna
steady.
Riverside,
gonna try on my long white robe,
well
down by the riverside,
to steady war no more,
no more.
Well,
I'm gonna lay down my sword and shield, no more fighting on the battlefield. Stick my sword in golden sand, down by the river I will stand. Then I'll shine up my sword and armor, no more fighting in this land.
Ain't gonna steady war no more.
Steady war no more. C'était le Golden Gate Quartet dans ce fameux Down by the Riverside. Alors pourquoi j'ai choisi ce Negro Spiritual ? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous avez écouté beaucoup le Golden Gate Quartet quand vous étiez jeune, je crois, du côté de Frémin-Merlebach. Parlez-nous un peu de cette période de votre vie.
En fait, je suis tombé dans le chant choral vers l'âge de 10 ans, dans une chorale d'église, mais dirigée par un prof d'histoire du collège où j'allais aller. Et on faisait les messes rythmées, etc. Oui. Et puis très vite, j'ai monté avec des potes et mon frère un quatuor que j'ai appelé le quatuor Orlandus. Orlandus du nom, du prénom du leader des Golden Gate Quartet,
d'accord.
Orlandus Wilson.
Oui.
Et donc je m'amusais à retranscrire pour nous des titres des Golden Gate. On a même eu l'honneur de les rencontrer. Ils faisaient donnaient un concert à Sarreguemines. Et on est allés tous les quatre, le petit quatuor là. Et on a pu chanter ensemble avec eux dans les loges. Ça, c'est un moment totalement dément, en fait.
Ah oui, j'imagine bien, oui.
Oui.
Et donc, à part le Golden Gate Quartet, vous repreniez d'autres choses, je suppose, aussi, à l'oreille, pour vous former.
Oui, pas mal. Je m'amusais à reprendre l'adagio d'Albinoni, des choses comme ça, pour en faire ça pour un chœur. Et puis, déjà, un peu de chanson, quand même. Hein, la bonne chanson française.
Oui.
Donc j'ai été dès le début assez éclectique dans mes choix. J'appréciais autant la musique classique que la musique de beat de variété, mais de la bonne chanson française ou internationale, ou la pop. Et j'ai gardé cet éclectisme qu'on m'a un peu reproché de temps en temps, que moi je prenais ça comme une force.
Oui.
Et j'ai toujours considéré ça, et dans mes concerts, même avec les deux villes, je mêlais toujours un peu de la musique du monde, du gospel, de la musique classique et évidemment de la chanson. Oui.
Et votre famille était musicienne, mélomane ?
Ma famille, mon père était mineur de fond pour Rion HBL, mais en même temps il jouait un peu de piano et de la batterie. Ma mère chantait dans une chorale, donc ma sœur a chanté dans mon petit cœur, mon frère aussi. Oui, c'est quand même une histoire un peu de famille.
D'accord, très bien. Et puis alors, donc ça c'était votre prime jeunesse, j'allais dire, et puis alors après votre bac, il faut choisir une voie. Et alors cette voix, ça va être la voix de la musique.
En fait, il me fallait un bac pour aller en fac de musicaux. Donc j'ai fait le bac pour ça.
Oui.
Et puis je suis allé à Strasbourg parce qu'à l'époque, la fac de musicaux, il y en avait trois, à Lyon, à Paris et à Strasbourg. Donc je suis allé à Strasbourg. Mes parents m'ont grandement encouragé, évidemment. C'était un plaisir pour eux de voir que leurs enfants faisaient de la musique ensemble, donc pratiquaient des choses. Ils étaient là à tous les concerts, ils faisaient les casse-croûtes, ils faisaient les billets d'entrée, enfin bref.
Oui, c'est vrai.
Oui. Puis en fac, la fac, c'est musicologique. On parle aussi beaucoup de musique. On en pratique peut-être pas assez, mais moi, je pratiquais déjà à côté.
Oui.
J'avais mes chœurs. Et puis j'ai rencontré là aussi une première personne, Erwin Liszt, qui était le prof de chant choral.
Oui, oui.
Et qui m'a beaucoup appris. Il m'a pris un peu sous son aile aussi. Il m'a laissé diriger le chœur des étudiants musicaux aussi. C'était déjà des grands moments à ce moment-là où je me disais je ne me suis pas trompé, c'est cette voie-là que je veux dans cette voie-là que je veux aller.
Et on montait vraiment des choses assez extraordinaires. Moi je me souviens quand j'y étais, on a monté le Hector Berlioz par exemple, L'Enfance du Christ, on a monté des Stravinsky,
totalement.
Symphonie de Psaumes, enfin c'était de la haute volée, hein, donc avec Erwin,
totalement, oui.
C'est sûr que
on
était en bonne compagnie.
Absolument, oui.
Et alors donc, à cette période-là, vous découvrez aussi un musicien fabuleux qui a marqué tous ceux qui ont travaillé avec lui. Je veux parler de Pierre Caho.
Alors Pierre, je pourrais en parler pendant des heures.
Allez-y, vous avez quelques minutes quand même.
Hein. C'est devenu un ami, en fait, parce que on s'est rapproché sur le plan humain. Il m'a tout donné, en fait. Je suis un de ses disciples. Parce qu'il m'a donné vraiment cette envie de diriger des chœurs de bon niveau et de mêler à cela un orchestre symphonique.
Oui.
Donc il m'a vraiment donné cette envie, parce qu'avec la Salette de Lorraine, où j'ai chanté pendant 10 ans, on a pu chanter avec les meilleurs orchestres baroques d'Europe. Donc c'était une formation. Moi je me mettais derrière au fond de la salle quand ils répétaient et j'écoutais, quoi.
Ben oui.
J'ouvrais mes oreilles. C'est ce que j'ai dit à mes élèves aussi. Ouvrez les oreilles. À 18 ans, on ne sait pas grand-chose encore.
Merci.
Ouvrez vos oreilles, taisez-vous, écoutez. C'est ce que j'ai fait avec Pierre. C'est un homme exigeant, hein, très très exigeant, oui, même avec des choristes amateurs.
Oui, qu'est-ce qui vous a appris alors dans cette exigence?
Moi, il m'a appris la rigueur. Mmh. Il m'a appris aussi la beauté du geste. Parce qu'un geste peut être efficace, il peut être beau en même temps. Mmh. Et cette faculté d'écouter vraiment, de se mettre un peu en retrait quand on fait chanter ou fait jouer, et d'écouter ce qui se passe, et de pouvoir dire ce qu'on pense, et de pouvoir donc dire aux musiciens ce qu'on voudrait, avec des expressions, avec des images, etc. Et puis l'exigence vocale à la salle de Lorraine était quand même très grande.
Ah oui.
On faisait des pièces comme le Dixit de Venus de Handel. C'est pas du gâteau, hein, ça.
Mmh.
C'est costaud. Donc il m'a donné cette envie de diriger aussi les grandes œuvres. Et il m'a donné envie de faire de la musique sérieusement en prenant du plaisir.
Et l'homme
prendre au sérieux.
Oui.
Alors l'homme, moi je l'ai aimé tout de suite parce que c'est. Il peut paraître au départ un peu froid par moment,
ah
et un peu sec, mais il a raison sur le fond, il a raison. Si on veut parvenir à quelque chose, il faut savoir où on va, et puis il faut emmener ces gens. Il a cette capacité d'emmener les gens très loin. Et ça, son aura, son charisme a fait que il nous a emmenés vraiment très loin.
Eh bien écoutez, oui, allez-y, continuez, oui. Je vous en prie.
Et puis j'ai donc pris des cours chez lui, mais en candidat libre, hein, parce que les diplômes ça m'intéressait pas. C'était sans doute un tort, mais j'étais au conservatoire de Luxembourg et j'ai pris des cours de direction d'orchestre. Qui était, il y a des gens qui venaient d'Espagne toutes les semaines, hein, pour suivre ces cours. Donc c'était quelque chose. Et j'ai rencontré là des gens qui sont devenus assez célèbres après. Où on travaille ensemble avec lui. C'est quand même une formation. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance, de rencontrer Pierre.
Eh bien, Pierre Cao, on va l'écouter dans un extrait du Requiem de Mozart.
C'était donc le Kyrie et le Dies Irae, extrait du Requiem de Mozart par le chœur Arcis Bourgogne, la Camerata de Salzbourg, sous la direction de Pierre Cao.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors, c'est pas la psalette de Lohen, mais Arcis Bourgogne, c'est pas mal non plus comme chœur.
Oh là, mon Dieu, que oui. Eh oui. Non, je les ai entendus plusieurs fois parce que j'essaie de pas louper des concerts quand ils venaient dans le coin. Et c'était quelque chose, il a su monter un ensemble là, du très haut niveau. Et puis rien qu'en entendant là, le Requiem, ça me rappelle des fois on l'a fait avec lui. Hein, oui. Il voulait évidemment le cœur, Arcis, rien à voir avec la psalette. Mais sa façon de le concevoir, je la reconnais bien.
D'accord. Et puis alors, on arrive en l'an 2000, nouvelle orientation dans votre vie musicale avec la rencontre de Jean-Jacques Goldman au Festival d'Alès, où vous dirigez les chœurs. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de cette rencontre, de cette période ?
En fait, j'étais donc un chef de chœur invité au Festival d'Alès. Et un jour, on s'est dit avec l'autre chef, et si on rendait un hommage à Jean-Jacques ? Et il se trouve qu'il était à la Grand Combe, pas loin d'Alès, où il donnait un concert. Donc, on a demandé un rendez-vous, on y allait. Et ça a fait tilt un peu tout de suite par sa simplicité. On a partagé la soupe, il a fait ce concert, on était ravis, il disait « mais un hommage, je ne suis pas encore mort ». Et finalement, on a fait cet hommage, il est venu, il était impressionné, vraiment impressionné, par 1000 choristes qui chantaient sa musique, un orchestre. Et donc, il était chaleureux, vraiment très chaleureux. Et à la fin du concert, il a dit « un jour, j'écrirai une chanson qui s'appellera « Ensemble » et vous saurez d'où elle est partie ». Et quelques mois après, il nous appelle et dit « ben la chanson, elle est faite. Et j'aimerais l'enregistrer sur mon dernier album avec les chœurs d'Alès. » J'avais beaucoup de Lorrains qui étaient là et j'ai eu donc cet immense honneur de diriger les chœurs pour la chanson Ensemble, qui est maintenant dans son dernier album.
Oui, et qu'on voit quand on parcourt le Facebook, on voit passer le chœur et puis on vous voit diriger quelques images furtives, mais quelques images quand même.
Oui, quelques images.
C'est vrai que c'est des moments qui doivent frapper l'existence et qui doivent vous conforter dans l'idée de ce que vous allez continuer à faire par la suite.
Oui, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a un avant et un après Jean-Jacques. La notoriété de Jean-Jacques fait que quand on bosse un peu avec lui, ça se sait, ça s'entend, donc... j'ai toujours gardé contact encore maintenant. C'est quelqu'un de profondément humain. Moi, j'adore sa musique, j'adore ses textes, il touche. Et donc, quand je fais du Goldman, ben, je prends cette œuvre avec autant de respect que quand je fais Mozart.
D'accord, oui, je comprends.
Donc, on a fait des projets ensemble. Après, à un moment, il y a eu les terribles inondations en 2002, je crois, près d'Angar. Puis on s'est dit, on va faire quelque chose. Il a dit, moi, je vais m'occuper des arènes de Nîmes, je vais les avoir, et je ramène des potes. Ces potes, c'était donc Francis Cabrel, Yannick Noah, Morane, Lavi, etc. Okay. Et il m'a dit, monte, essaie d'avoir 300 choristes, et on fait deux concerts aux arènes de Nîmes, un à 17h, un à 21h. Et c'est ce qu'on a fait.
Oui.
Et puis, il s'est fait un DVD de cela, qui s'est vendu, et dont l'argent allait directement au sinistré. Mmh. Hein. Une autre fois, il s'occupait d'un camp scout près d'Alef, et il m'a appelé, il m'a dit tiens, généralement on fait une petite soirée avec des chefs d'entreprise pour aider les scouts, on mange la soupe et je chante un peu, là j'ai pas envie de chanter seul, donc tu viens avec ta chorale. Donc je suis descendu avec ma chorale de jeunes et puis on a fait un petit concert dans cette salle sans scène, sans lumière, sans rien, petit clavier, et Jean-Jacques chantait dans la chorale. Je l'ai fait avancer quand il chantait soliste. Il y a peu d'artistes qui se prête à ça, autant de plaisir. Donc c'était ma deuxième rencontre déterminante.
Les plus grands sont souvent les plus humbles. Hein.
Absolument, oui, ça on peut le dire. Oui. Et j'en connais pas mal.
Ah, oui. Mais ils se cachent peut-être aussi. Hein.
Ah, oui, il y a de tout. Mais c'est un peu comme dans la vraie vie. Hein.
Bah oui. C'est un microcosme.
Il y a des gens très bien, il y a des gens moins bien, mais les gens moins bien, on arrête de bosser avec eux, on ne le fait pas. Puis les gens bien, on travaille ensemble avec beaucoup de plaisir.
D'accord. Alors, par la suite, vous faites fructifier cette idée d'associer les stars et les choristes. Alors, en 2011, c'est la création du chœur régional de Lorraine. Alors là, c'est encore un petit peu autre chose.
Oui, en fait, avec c'est Jean-Jacques qui avait donné mon nom pour les 500 choristes sur TF1.
Oui.
Donc ils m'ont abordé la production qui est aussi la production des enfoirés.
Oui.
M'a appelé. La seule exigence que j'avais, c'était de que les 500 choristes soient lorrains.
D'accord.
Donc ils l'ont accepté. Donc à chaque émission, 500 lorrains, 10 bus débarqués à Paris pour un gros week-end d'enregistrement avec des artistes. C'est là où j'ai pu faire aussi mon marché, parce que j'ai donc bossé avec un peu tous les artistes français qui existaient, parce que par émission, il y avait 25 artistes avec leur production. Donc là, j'ai fait un peu mon carnet d'adresses. Mmh. J'ai été invité aussi aux Enfoirés. À chaque année, Jean-Jacques m'invitait, donc je pouvais rencontrer ces gens. Et à un moment, la région, voyant tout ça, s'est dit, tiens, Jacky Lox, il est un peu partout en France, il dirige à l'étranger, pourquoi il ne travaillerait pas officiellement pour la région? C'est Jean-Pierre Masseret à l'époque qui dirigeait la région.
Mmh.
Et il m'avait chargé donc de plusieurs types de projets, c'est-à-dire de monter quelque chose en direction des jeunes. Donc j'avais déjà des chœurs de jeunes, c'est devenu le chœur régional de Lorraine.
Mmh.
Et de faire des concerts à public croisé. Donc j'ai préparé les chœurs pour l'Orchestre national de Lorraine avec je me rappelle plus
Jacques Mercier,
voilà. Oui. On est devenu très amis aussi. Et donc de faire de la musique de différentes époques, d'écrire aussi pour les chorales et de monter quelques projets vitrines.
Mmh.
C'est à ce moment-là que j'ai écrit à toutes les chorales de Lorraine pour dire est-ce que vous seriez intéressé par faire un projet commun. Ça a donné les 2000 choristes, non pas que je veuille avoir 2000 choristes pour battre des records, mais plus de 2000 choristes ont répondu.
Oui, et vous les avez tous acceptés.
Ben, ça, pour un projet comme ça, j'accepte tout le monde.
Mmh.
Après, comme je disais, je veux des choristes, pas des touristes.
Voilà, oui, on va en parler après. Oui.
Voilà. Mais et le cœur régional de Lorraine donc, était le cœur pilote de ces projets des 2000. Ouais.
D'accord. Et alors en 2008, donc vous devenez attaché principal du président de la région Lorraine. Donc
voilà.
Pour développer et valoriser le chant choral sur le territoire.
Hein. Mm-hmm.
Donc vous écrivez aux choristes, ils viennent. Vous prenez tout le monde, donc même ceux qui ne lisent pas la musique.
Ah ben là, 80% ne lisent pas la musique, même plus de 80%.
Ouais.
Moi, ça m'est égal comment ils apprennent, pourvu qu'ils connaissent leurs morceaux.
D'accord.
Donc si des gens le font avec la partition, ils savent se débrouiller avec, c'est bien. Sinon, les gens, moi, je faisais des CD de travail.
D'accord, oui, c'est déjà les CD de travail. Oui, oui.
Mmh. Voilà. Donc peu importe comment ils apprennent, et de temps en temps, je préfère même qu'ils apprennent avec le CD de travail qu'avec la partition.
Oui, comme ça, vous savez exactement, enfin, ils savent exactement ce que vous voulez.
Voilà, c'est ça, oui.
Alors, dans les arrangements que vous faites, comment faites-vous pour que tout le monde y trouve son compte entre les solistes, les choristes et les instrumentistes? Il faut un subtil équilibre entre tout ça.
Je pense qu'une des forces, c'est que j'écris le tout. Ça veut dire que je pense tout de suite à la finalité.
D'accord.
Alors quand il y a des solistes, il est évident qu'on va les entendre.
Mmh.
Et que l'accompagnement il faut un subtil équilibre entre le chœur et l'orchestre. Donc pas sur les mêmes plages de timbres, pas sur les mêmes tessitures, etc. Donc j'étage tout ça pour qu'il y ait aussi de l'air encore.
Mmh.
Alors il y a des gens qui me disent, oui, ils font que des O, des A, pas du tout. Ils font des mélodies secondaires.
Oui.
Ce n'est pas de rondes tenues, c'est des vraies mélodies complémentaires.
Mmh.
Donc c'est très intéressant aussi pour eux à travailler ça.
Bien sûr. Oui.
Un peu comme quand il y a des fugues, j'ai fait des fugues.
Oui, c'est un peu du contrepoint, quoi. Mmh.
Voilà, hein, c'est du contrepoint, même doublé par l'orchestre comme le faisait Mozart à l'époque,
oui.
Etc. Donc c'est toujours très intéressant. Et je mêlais comme toujours dans mes concerts des tutti, où le chœur avait la partie complète. Mmh. Mais même là, je m'arrangeais toujours pour que la mélodie passe d'une voix à l'autre.
Oui.
C'est pas les sopranes qui ont la mélodie et les autres accompagnent, pas du tout.
Et les altos remplissent.
Non, pas du tout. En fait, quand on donne la mélodie à l'alto, ça veut dire qu'il y a deux voix au-dessus, deux voix en dessous. Soprano, soprano 2, ténor, basse. Mmh. Quand je la mets au basse, les quatre voix sont au-dessus. Ça change des couleurs.
Bien sûr.
Ça change complètement de couleur. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est pas de faire un devoir d'harmonie, en fait, mais c'est de créer des couleurs.
D'accord. Alors ces 2000 choristes ou 500, enfin, ou 300,
oui, ça dépend des fois,
il faut les faire travailler, il faut les faire répéter. Alors vous avez parlé des CD, mais je suppose qu'il faut aussi un peu de choses en visuel.
Ben, pour les 2000 choristes, c'est moi qui faisais toutes les répètes. Donc D'accord. Ils avaient des travails pour chaque mois.
Oui.
C'était plus simple de me déplacer moi que de déplacer 2000 choristes.
Ah bah c'est clair, oui.
donc je faisais des points de rassemblement dans les différents coins de Lorraine et du Grand Est. Il y avait des Parisiens aussi, donc j'allais à Paris faire répéter. Mmh. Il y avait des Suisses, donc j'allais en Suisse. Et puis j'avais donc 600 choristes là, 200 là, 300 là. Et on répétait donc avec un programme bien précis pour la répète.
Oui.
Donc ils avaient des devoirs.
D'accord, oui. Les devoirs du choriste.
Voilà. Parce que je leur disais quand même que chanter au Galaxy devant 5000 personnes avec un orchestre symphonique et des artistes, quelque part, ça se mérite aussi.
Bien sûr, oui. Oui.
Hein, et seul, on n'est rien, mais ensemble, on peut être très fort.
Tout à fait. Alors, vous faisiez toutes les répétitions tout seul ou alors vous aviez quand même des assistants qui préparaient un petit peu le travail en amont?
Je faisais en principe toutes les répétitions, comme ça, c'était... Tout le monde avait la même chose au niveau des chansons. De temps en temps, quand je faisais du travail un peu en séparé, j'avais évidemment des assistants.
Mmh.
Hein. J'avais de temps en temps un pianiste quand ça allait, sinon je jouais au piano en même temps.
Ouais.
Mais j'avais une équipe aussi très solide pour organiser tout ça, pour organiser les répètes. Il fallait une équipe, mais là c'était le chœur régional.
D'accord. Et vous testiez quand même les voix de tout le monde avant d'attaquer le travail ?
Pour les 2000, non.
Non.
J'acceptais tout le monde, mais après, dans les répétitions, il m'arrivait de corriger. En fait, j'acceptais tout le monde à condition qu'il travaille.
D'accord.
Quand je voyais que quelqu'un avait du mal, mais il bossait, je l'encourageais, je le mettais à côté de quelqu'un qui est sûr, en chantant moins fort pour suivre. Mais quand je voyais vraiment qu'il y avait des touristes, je me permettais de les virer.
D'accord.
Voilà.
Ce qui ne doit pas être évident quand même, non ?
C'est jamais évident, mais un moment pour le bien du projet. Parce qu'un choriste qui a à côté de lui quelqu'un qui est touriste, qui chante n'importe quoi en s'en foutant, ce n'est pas un cadeau.
C'est sûr. C'est sûr.
Et donc à un moment, ça peut gangréner très vite une voix, etc. Et j'avais absolument pas envie de ça.
D'accord. Alors, je disais en prélude à cette émission que vous dirigez aussi de la musique classique. Alors,
oui.
Est-ce que vos exigences sont les mêmes, quel que soit le répertoire, variété, classique ?
En fait, les exigences au niveau de la musique sont les mêmes, mais quand je monte le Requiem de Mozart, par exemple, là, je fais des castings.
D'accord, oui.
Je fais des castings pour les choristes parce qu'il faut quand même... Il faut là quelques qualités vocales pour des vocalistes, pour des choses comme ça,
ouais.
Avec des choristes qui peuvent le faire. Mmh. Alors il m'est arrivé dans les 2000 de faire des extraits du Requiem de Mozart ou du Messie. Donc je prends des extraits ciblés et on a fait le Dies Irae du Requiem avec 2000 choristes. Et
ah,
ça
oui.
marchait très bien.
Ah ben oui.
Ça marchait très bien. Maintenant, je ne m'attaquerai pas au Kyrie peut-être, hein, avec le Christ et l'Eison, avec 2000 choristes. Mais j'ai fait l'Alléluia du Messie. Ça marchait très bien aussi.
Mmh. Ah.
Mais quand je fais toute une œuvre, bon là, déjà, faire le Messie de la 2000, ça n'a pas de sens.
Oui.
Surtout
à l'époque, il y en avait beaucoup moins.
Non, il faut rester cohérent avec tout ça. Donc j'essaie quand même de rester cohérent avec des choristes qui tenaient le choc aussi pour donner un spectacle de qualité.
Alors, vous dialoguez beaucoup, si j'ai bien compris, avec tous ces choristes que vous dirigez. Et qu'est-ce qu'ils vous disent de ces expériences dans lesquelles vous les entraînez ?
Beaucoup, y a des gens qui me disent j'étais guéri, j'étais malade, j'étais guéri par ça, parce que cette nouvelle famille me transporte.
Oui.
Donc moi je crois quelque part aux vertus de la musique, hein, aux vertus du beau mon cœur, pour la beauté de l'âme, je crois vraiment à ça. Et puis le fait de chanter en chœur, ça veut dire aussi de respecter le voisinage, hein, d'avoir sa place, de se croire, d'être important, mais pas indispensable. C'est une phrase que j'aime à le répéter. Tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Donc, mais important, oui, parce que dans 2000 choristes, ils n'avaient pas l'impression d'être noyés dans la masse.
Oui.
Parce que quand je voyais que quelqu'un chantait faux, même avec les 2000, je le remarquais, parce qu'on le remarque aussi visuellement.
Oui.
Et donc, ils étaient importants. Et à mes yeux, ils sont tous importants.
D'accord.
Mais il faut savoir chanter en groupe. Et ça, c'est... ça veut dire vivre en groupe et c'est pas simple non plus.
Ça veut dire venir à toutes les répétitions, etc. Quoi.
Venir aux répétitions, évidemment, avoir travaillé, avoir fait les devoirs.
Oui.
Et puis surtout, dans chaque répète, prendre du plaisir. Donc ma notion de répète, c'est vraiment qu'à la fin, ils étaient contents. On n'a pas seulement travaillé, mais on a passé un bon moment avec générosité, avec le cœur. Et ça, j'y tenais vraiment.
Très
donc
bien.
J'essaie toujours que les répètes soient ça.
D'accord. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter un petit moment pour écouter l'Alléluia du Messie de Handel. C'était l'Alléluia extrait du Messie de Handel dans la version des Arts Florissants dirigée par Paul Agnew. Alors Jackie Lox, il n'était pas 2000 là pour chanter les Arts Florissants, non. Mais hein, bon, ça sonne aussi.
À l'époque de Bach, ils étaient 22.
Bah
hein.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors tous ces choristes que vous prenez en main, vous les faites travailler sur un sujet précis ou alors vous les retrouvez d'un projet à l'autre?
Alors il y en a beaucoup que je retrouve sur beaucoup de projets, oui. Il y a quand même une fidélité avec ça. Après, c'est vrai que les changements de lieu, les aléas de la vie font que des gens ne viennent plus. Mais dans les 2000, il y avait toujours au moins 60 à 65% de gens qui l'avaient déjà fait, oui. Et puis un 30% de nouveaux.
Oui.
Et cette alchimie, je trouve très intéressante, parce que les gens qui l'ont déjà fait apportent leur expérience donc du projet et ne pas s'affoler. Et les nouveaux emmènent cette pétillance de la fraîcheur.
Ouais.
Et donc, je trouvais que c'était un mélange très détonnant, oui.
D'accord. Par rapport à un chœur comme le chœur des 2000 ou un chœur comme le vôtre, nouveau généré, il y a une différence de pédagogie technique, je parle,
oui.
Un petit peu.
Oui, c'est-à-dire, bon, un nouveau généré, on aborde des œuvres que je ne pourrais jamais aborder avec les 2000. Des œuvres quand même très difficiles, avec un peu de musique contemporaine. Et des compositeurs, surtout nordiques aussi, que j'aime beaucoup, Geilo, des gens comme ça qui écrivent de la musique fantastique, mais oui. qui est techniquement difficile. Au niveau tant de l'harmonie, des harmonies vraiment très, très bizarres. Enfin, très bizarres. Bizarres pour le néophyte,
oui,
mais
oui,
qui sont très intéressantes.
Ah bah oui, tout à fait.
Et donc ça, je l'aborde avec Novo parce que je sais qu'on pourra le rendre honorablement. Et je ne vais pas mettre les 2000 dans des situations où on n'a aucune chance.
Il faut
savoir aussi, il faut savoir choisir les œuvres par rapport aux gens qu'on a devant soi.
Ben oui, c'est sûr. Alors, pendant la période du Covid, vous avez eu des activités ralenties ou vous avez trouvé des subterfuges pour continuer à travailler ?
Bon, on a eu des évidemment du ralenti. Mais j'étais en train de préparer pendant le Covid le concert qu'on a fait avec les exodés, donc Moselle déracinée. Et là, donc, j'ai fait des répétitions virtuelles. C'est-à-dire que je me suis enregistré sur chaque morceau. J'ai passé trois quarts d'heure par voix où je leur ai appris la voix de chaque chanson. Donc les altos, il y a eu trois quarts d'heure de répète. Je les faisais répéter comme si j'étais face à eux.
D'accord. Ouais.
Et donc ça a permis, juste après le Covid, de faire ce projet. Sinon, on n'aurait jamais réussi.
Ben oui. Alors, je vous propose d'écouter une petite chose un peu extraordinaire. C'est deux garçons qui chantent, qui s'appellent Deux Gars Pleins de Voix. Je ne sais pas si vous les connaissez.
Non.
Et ils ont enregistré à eux deux Le Chant des Oiseaux de Clément Jeannequin.
Ah, d'accord.
Oui. On écoute.
Réveillez-vous, cœurs endormis, que Dieu ce premier jour de mai, mes os feront merveilleux.
Ah, ce premier jour de mai,
vous mettre hors des bords des mers,
détournez-vous
en mettre
hors
des mers,
détournez-vous
en mettre
hors des mers. Paris, 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 Paris,
Paris,
Votre gorge, j'arrive,
j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive,
C'était deux gars qui s'appellent Deux gars pleins de voix qui nous proposaient ce chant des oiseaux de Clément Jeannequin.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors, en 2017, Jackie Lox, vous élargissez votre champ d'action en intégrant la commission tourisme de la région Grand Est. Alors, on était avec le cœur régional de Lorraine. Là, on passe à la dimension suivante, la région Grand Est, avec toujours cette idée de dynamiser et de promouvoir le chant choral.
Oui.
Comment vous vous positionnez par rapport aux autres acteurs du chant choral dans la région? Je pense par exemple à l'Institut européen de chant choral.
Ben, par rapport à l'Institut, j'ai toujours essayé de travailler avec les gens et pas contre les gens.
Oui.
Moi, j'ai travaillé avant d'être à la région, j'ai travaillé aussi pour l'INEC.
Oui.
Donc ce qu'on proposait certaines fois, c'est des actions communes au niveau de la pédagogie. Par exemple, les chefs de chœur qui faisaient les 2000, je leur proposais par le biais de l'INEC des stages de direction.
D'accord.
C'était aussi des stages de technique vocale. Mmh. Donc j'ai toujours essayé de travailler avec eux, parce que c'est complètement normal. Ils étaient subventionnés aussi par la région. Donc, voilà. Et pareil avec la maîtrise de la cathédrale, avec Christophe Berg aussi.
Oui.
Ben, ils ont fait les 3 ou 4 derniers 2000, ils ont chanté avec les 2000.
D'accord, très bien.
Donc, j'essaie toujours, tant que c'est possible, de travailler avec les gens.
Mmh, mmh. Et qu'est-ce que vous pensez de soirées consacrées au chant choral, comme le concours organisé par France 3 l'hiver dernier pour élire la meilleure chorale de France?
Alors, la meilleure chorale de France, ça veut dire quoi, déjà? Si on prend la meilleure chorale de France, c'était peut-être Arcis à l'époque. Hein, mais on ne parle pas de ça, là, France 3. Donc, je suis pas un fan des concours.
Mmh.
La meilleure dans son style. Et, alors il y a des chorales qui bougent, qui sont très bien, mais où le vocal est peut-être un peu moins bon, mais oui, ils bougent d'une certaine façon parce qu'ils ont une chorégraphe géniale, etc. Donc ces concours-là, j'avoue que ça me laisse un peu perplexe.
Non, mais l'idée, c'est de défendre une certaine vitrine du chant choral, quoi, en fait. C'est ça, avec toutes ces différentes facettes. C'est peut-être ça qui est intéressant.
À partir de ça, c'est intéressant parce que C'est vrai que pendant longtemps, quand on parlait chorale avec les gens, bah, c'est les petits chanteurs à la croix de bois,
ouais.
Hein, c'est la musique religieuse. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'harmonisateurs, bon, j'en fais partie, mais qui ont promu la musique chorale grâce aux chansons de Cabrel, de Goldman, de Woolsey, de Souchon.
Ouais.
Et ça, c'est très très bien aussi.
Hein.
Faire de la musique, c'est... Il n'y a pas de grande musique, de petite musique. Hein. Il faut aborder chaque musique sérieusement, mais on n'a pas besoin d'avoir un air carrément triste pour faire de la musique sérieusement.
C'est sûr, c'est sûr.
On peut s'amuser.
Bien sûr. Alors, je pense que vous allez vous amuser au mois d'août avec la semaine chantante qui va se dérouler à Gérardmer. Vous pouvez nous en dire deux mots ?
Alors, c'est la première semaine chantante organisée par le Chœur de Moselle maintenant, puisqu'il est du Chœur de Moselle.
Oui.
Et... c'est donc un petit pari pour faire venir plein de choristes pour faire un stage un peu plus diversifié que les 2000 où vraiment on était axé sur les concerts aux Galaxies.
Oui.
Là, on chanterait une demi-journée et on fait des activités l'autre demi-journée.
Oui.
Donc c'est un peu musique et nature. On leur propose de chanter dans les chaumes. À un moment, on va chanter tout en haut du Honeck,
oui,
avec un repas marqueur. On va faire des Olympiades, donc des jeux par équipe, etc. Il y a des soirées à thème, il y aura une soirée de folk traditionnel où ils apprendront des danses folk. Et il y a le concert des chefs, on fera un concert aussi pour leur montrer que les chefs peuvent chanter aussi. Et l'obad, le vendredi 22, on aura une obad avec les 13 chants qu'on aura bossés pendant la semaine.
D'accord.
Et là, on est 5 chefs. Donc j'ai invité évidemment mon ami du cœur, l'extraordinaire Guylaine Fournier.
Mmh.
Chef de chœur du Québec qui est fantastique. Et donc elle sera là. Mais les choristes se réjouissent déjà parce que je l'avais fait venir au dernier 2000 aussi. Il y aura Rémi Delecta qui est un des membres de cette association L'Oxley qui a fait pas mal de comédies musicales dans l'Est et qui est en Normandie maintenant. Il fait Normand de chœur aussi.
Mmh.
Donc c'est quelqu'un avec des valeurs humaines et musicales énormes. Et puis on met le pied à l'étrier à deux jeunes chefs du chœur de Moselle, donc Flavia et Pierre Bollinge.
Mmh.
Ces deux gens plein de talent. Flavia, elle chante d'une façon magnifique. Et elle dirige déjà en Belgique. Et Pierre qui a monté un chœur à Paris. Donc on sera 5 chefs à se relayer pour faire chanter ces choristes.
Bon, et puis je suppose que vous avez plein de projets pour la rentrée.
Alors, déjà, il y a cette semaine à préparer, il y a pas mal de choses à faire pour l'organisation, parce que il y a 300 choristes, donc il faut quand même... on a choisi Gérardmer aussi, parce que c'est la période des Vosges, elle est connue en France. Il faut aussi un lieu où, s'ils viennent en famille, ils puissent aussi y avoir des vacances pour le conjoint qui ne chante pas, par exemple.
Mmh.
Et après, avec Nouveau Généré, je vais monter un concert de Noël,
mmh,
avec un petit orchestre de chambre, donc mais mise en scène aussi, avec... notre chorégraphe Alicia Miner, et on va monter un vrai spectacle dans une église avec de la lumière, avec des danseurs, des danseuses,
mmh,
qui vont réussir à magnifier, que ce soit un extrait du Messie de Handel ou l'oratorio Noël de Bach, avec de la musique pop de Noël, mmh, des chants plus traditionnels, etc.
Alors, on le disait, la musique, c'est une bonne partie du moteur de votre vie, mais il vous arrive quand même de vous reposer, j'espère. Vous faites quoi pour vous changer les idées ?
Ben là, je suis assis sur un banc à Trigance, près des Gorges du Verdon.
Bon, oui. Il fait beau ?
En moto. Oui, il fait super beau, je suis en plein soleil. J'ai une vue magnifique, j'ai la moto en bas. Et c'est une façon de se reposer, d'emmagasiner de l'air frais et de penser un peu à autre chose.
Ah bah c'est bien, c'est très chouette. Bien, écoutez, on a commencé l'émission en évoquant Pierre Caot, le conservatoire de Luxembourg. Et bien, on se propose de vous offrir le Haut Fortuna des Carmina Burana dans l'interprétation de musiciens luxembourgeois, l'orchestre de chambre de Luxembourg, le chœur de cet orchestre de chambre et la musique grand-ducale sous la direction de Antonio Grossu.
Thank you.
avez tous reconnu le fameux O Fortuna, d'extrait des Carmina Burana de Karl Orff. Alors Jacky Lox, merci de nous avoir consacré cette heure, parce que même à côté des gorges du Verdon, on continue à parler de musique un petit peu. Hein.
Oui, absolument. Voilà. Bah, merci à vous de m'avoir invité.
C'est avec grand plaisir. Alors, je termine en donnant quelques informations, parce que les festivals continuent aussi dans la région, avec notamment vendredi et samedi un concert à l'église de Vézelise, à l'église de Dongermain, le festival Bac de Toul qui se poursuit, et le festival Organout à la basilique de Saint-Nicolas-de-Port tous les dimanches à 17h. Voilà, et bien écoutez, merci à Joris pour la technique, Jacky, merci encore, et puis on va terminer cette émission avec Grégory Lemarchal, les 500 choristes, là-bas, de Jean-Jacques Goldman.
Merci.
Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage, libre continent sans grillage. Si nos rêves sont étroits, c'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas, fou du cœur et fou du courage, mais tout est possible à mon âge. Tu as la force et la foi. L'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas.
C'est pour ça.